Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast Tout seul le temps nos limites. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons faire un retour sur les conférences Black Hat et DEFCON. Les contributeurs Nos Limites Sécu sont Arnaud Soulier, qui a participé à la DEFCON.
Bonjour.
Guillaume Lopez.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Hervé Schauer.
Bonjour.
Sébastien Joria.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Uloa. Alors avant de commencer, je voudrais remercier nos anciens followers, mais aussi les nouveaux, à savoir Quickass Sam, Alex, Amaury Blaha, Anthony Deservois, Vanille, Haussmann, Pierre Lecoq, Frolich, Max Herbé, Pierre-Antoine Bonif, Galnish Dylan, Arne Gristan, Stéphane de Saint-Albin, Alexandre Lacan, Jean-Pierre Aumasson, Pierre, Alex SLCC, Antoine, Anne Lenoir, Deus, Beretta Vixi, Irbis, Sam, L'Apprenti Geek, Zvoski, l'Observatoire SSI du Sud-Est, Canon, Phil, Phil G et Xavier Verton. Je voudrais aussi remercier les twittos qui participent à nous faire connaître en nous retweetant ou en tweetant à propos des épisodes que nous publions. Donc à savoir Sax, Michael Dorini, CQIP, Christophe Novicki, Baptiste Lelièvre, Asunan Kali, Thomas Rocchia, l'Observatoire SSI du Sud-Est, Academics Forum, Romain, le Journal du Hacker, Lionel Guillet, Beretta Vixi, CGI Business Consulting Sécurité, Cédric Blaisin et Maxime Puy. Donc un grand merci à vous tous, vos feedbacks nous font très très plaisir et nous encouragent à continuer. Donc Arnaud, la DEFCON, qu'est-ce qu'il s'y est dit d'intéressant ?
Ce qui s'est dit d'intéressant, beaucoup de choses. Je pense qu'on peut simplement commencer par parler un peu du volume. C'est assez énorme. La DEFCON, il y avait quand même à tout moment de la journée, pendant 4 jours, 5 conférences en parallèle. Donc, ça fait énormément de conférences. À la Black Hat, je crois qu'ils ont publié les chiffres, il y avait plus de 110 interventions. Donc c'est absolument énorme, ce volume de conférences, même s'il y en a qui se recoupent et qui ont été présentés aux deux événements. Et sur le nombre de participants, c'est aussi assez impressionnant. J'ai lu 11 000 personnes présentes à la Black Hat et entre 18 et 20 000 pour la DEFCON. Donc c'est assez fou et c'est incroyable par rapport à ce qu'on peut voir en France ou en Europe. Pour répondre à ta question sur les conférences intéressantes, je pense qu'on peut peut-être commencer par parler de celle qui a fait le plus l'actualité. C'était la prise de contrôle à distance d'une voiture non modifiée du commerce. Qui était présenté par deux chercheurs, Charlie Miller qui travaille chez Twitter si je ne me trompe pas, et Chris Valasek qui travaille chez IOActive. Ces deux personnes qui travaillent depuis quelques temps sur justement sur le piratage et la sécurité des voitures, qui avaient déjà présenté des choses il y a 2 ans où en se connectant physiquement sur la voiture, ils arrivaient à tourner le volant, à freiner, à accélérer. Et cette année, ils ont présenté une attaque où, à distance, ils pouvaient attaquer une voiture qui, en l'occurrence, était une Jeep équipée d'un système de navigation connecté à Internet. Comment ils ont fait ça ? De manière assez classique, hein, ils ont essayé d'identifier la surface d'attaque, soit par le Wi-Fi, puisque faut savoir que sur ce type de véhicule, il y a un Wi-Fi pour partager sa connexion Internet aux personnes qui sont dans la voiture. Et il y a également une connexion de type 3G chez l'opérateur Sprint. Donc ils ont fait classiquement un scan de port, ils ont regardé quels étaient les services accessibles, ils se sont rendus compte qu'il y avait, un serveur qui écoutait sur le port qui correspond à IRC. Donc évidemment c'était pas un serveur IRC et ça permettait d'envoyer des commandes au véhicule. Donc là ils se sont dit chouette, on va pouvoir faire pas mal de choses. Donc ils avaient déjà assez facilement, juste en étant connectés sur le même réseau, ils pouvaient modifier des choses sur ce qu'on appelle la console d'infotainment, c'est-à-dire l'écran qui est au milieu de la voiture et qui permet d'écouter la musique, de voir la navigation.
Le port c'était un port D-bus, hein.
Oui c'est ça.
C'était D-bus le process qui écoutait sur ce port.
Exactement, et ils l'avaient déjà vu il y a 2 ans, et en fait, ils s'étaient pas du tout rendu compte que c'était ça, ils avaient trouvé ça marrant, ils avaient fait une blague dans leur présentation, et c'est en creusant cette année qu'ils se sont rendus compte que finalement, ils allaient pouvoir envoyer des commandes via ce port-là. simplement, dans un premier temps, ils sont restés cantonnés à ce système d'infotainment qui n'a pas directement accès au reste de la voiture. Et c'est là qu'a été tout le travail. D'après ce qu'ils ont dit, c'était 3 à 4 mois de travail pour finalement identifier qu'il y avait bien une liaison entre ce système et les autres systèmes électroniques de la voiture, et notamment le bus CAN sur lequel circule l'ensemble des commandes. Mais c'était uniquement une liaison de type SPI, donc qui permet de lire et d'écrire sur une puce mémoire. Et tout leur travail a consisté à fabriquer une fausse mise à jour qui allait permettre d'utiliser cette liaison pour envoyer des commandes sur le bus CAN. Donc c'est quand même un gros travail de leur part, et c'était possible par la présence de deux vulnérabilités. La première, c'est qu'on pouvait faire des mises à jour depuis cette console qui s'appelle la console d'infotainment, et que ces mises à jour n'étaient pas signées.
Ouais. Et à partir de là, Jeep a dû faire un rappel de 1,4 million de véhicules. Parce que...
Exactement. En fait, ça a dépassé leurs estimations. Alors, ils ont fait quelque chose qui était quand même assez osé, c'est qu'ils ont scanné un peu toutes les plages d'adresses IP qui correspondaient à l'opérateur Sprint pour essayer d'identifier combien il y avait de voitures. Et ensuite, ils ont envoyé des commandes des bus pour identifier le numéro de série de la voiture, pour être sûr de ne pas les scanner deux fois. Donc, ils ont quand même envoyé des commandes de manière un peu cavalière sur plein de voitures, et ils ont fait une approximation, ils se sont dit voilà, ça doit toucher 300 000 véhicules, et ensuite ils se sont rendus compte que le constructeur en avait rappelé 1 400 000. Pourquoi ? Parce que finalement ce système il est utilisé par tout un grand nombre de voitures du groupe, qui est le groupe Fiat Chrysler, et donc ça fait tout de suite énormément de voitures.
Et après il y a d'autres histoires qui auraient fait surface, comme quoi Volkswagen aurait été aussi vulnérable. Alors, je ne sais pas s'ils utilisent le même système, mais qu'en fait, des chercheurs avaient trouvé ça il y a 2 ans et qu'ils auraient réussi.
Exactement. Le papier a été publié aujourd'hui ou hier, je crois. En tout cas, moi, c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Et c'est un papier qui est originalement été proposé à une conférence de sécurité à Usenix, je crois, il y a 2 ans.
Et je crois que le plus rigolo, c'est le patron de Mercedes, enfin Daimler Chrysler, qui a dit, Daimler, sur la maison mère de Mercedes, je ne sais plus à quelle c'est. Qui a dit nous, nos voitures, il n'y a aucun moyen de les pirater depuis l'extérieur de l'habitacle.
Exactement.
Challenge accepted.
Et je crains malheureusement, enfin au vu des vulnérabilités, hein, qu'on retrouve la même chose chez à peu près tous les constructeurs. Hein. Il n'y a pas de secret.
Bah, a priori oui, parce que de toute façon, ils sont tous partis sur les mêmes entre guillemets les mêmes produits, à part peut-être Tesla qui est parti mais qui s'est fait prendre autrement, mais ils sont à peu près tous sur les mêmes produits, quoi.
Ouais. Il y a eu aussi une conférence sur les vulnérabilités des serrures qui montrait que tous les modèles de toutes les marques avaient les mêmes défauts sur leur système de serrure.
Tu parles des serrures sans fil là, non?
Oui, tout à fait.
Des Bluetooth Low Energy pour ouvrir les serrures d'hôtel.
Tout à fait, oui.
Oui, bah après, c'est un peu. Tu sais, avec l'Internet of Things, maintenant tu fais des cours sur ce que tu veux. Hein. Il y avait un mec qui avait trouvé un rouleau de papier toilette, enfin un distributeur de papier toilette connecté qui tweetait quand il n'y avait plus de PQ. Donc, on peut déjà prévoir qu'il y aura une conf à Black Hat 2016. Hein. La vie humaine est en jeu. Hein. Il y a eu la même sur un fusil de sniper, non ? Un fusil connecté ?
Oui, ouais. Alors dans le principe, c'était la même chose. Un objet connecté. Il y a eu pas mal de bruit dans la presse. Alors en revanche, pour avoir assisté à la conférence, je vais balancer un peu, c'est pas du tout le même niveau technique. Globalement, ça s'arrête à... Il y a un réseau Wi-Fi non authentifié sur lequel on se connecte. On peut envoyer des commandes. Et par ailleurs, en se connectant en démontant le fusil et en se connectant au bon endroit, on a pu récupérer le système de fichiers, identifier une API d'administration et ainsi envoyer n'importe quelle commande. Mais d'un point de vue technique, c'est expliqué en 2 minutes. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de bruit, parce que c'est rigolo, parce que c'est un fusil. Mais en fait, techniquement, c'est pas une recherche exceptionnelle. Et en termes d'impact, le scénario qui était présenté, c'était « je vais modifier la configuration du fusil pour les faire croire que j'utilise d'autres munitions, ce qui va avoir pour effet de me faire dévier de ma cible. » Voilà. Ouais. C'est pas non plus... C'est pas un impact énorme. Et là aussi, le communiqué du fabricant était assez rigolo, puisqu'il disait « ne vous inquiétez pas, la portée du Wi-Fi est limitée, donc vous pouvez utiliser le fusil en toute confiance si vous avez confiance dans le fait qu'il n'y a pas de hacker dans les 30 mètres aux alentours de vous.
C'est mort. »
Ce qui est souvent le cas en forêt quand on fait de la chasse.
Ouais. Bah, foutre du Wi-Fi dans un fusil, quand même, faut en vouloir, quoi.
Ah, c'est assez rigolo quand même, hein. C'est-à-dire que tu le poses quelque part, t'attends qu'il y ait. En fait, par exemple, tu peux voir l'image de ton fusil sur ton iPad, à 50 mètres de ton fusil bien au chaud, et t'appuies sur l'écran et ça tire.
Ouais.
Et là, si tu hackes l'iPad, ça commence à devenir intéressant.
Ouais.
Est-ce que tu peux diriger le fusil aussi ?
Non, justement, c'est pour ça que finalement les impacts sont pas énormes. C'est que tu vas pouvoir faire dévier un peu le tir parce que tu vas modifier la configuration et dire que tu utilises d'autres types de munitions. Mais au final, on va pas pouvoir le retourner contre le chasseur, par exemple. Ça, c'est.
Ouais,
mais
bon, ça sera dans la V2, ça.
Oui, sans doute.
Éventuellement, tu peux aussi tirer quand tu veux. Enfin, c'est quand même un impact.
Oui, il y a plutôt ça, effectivement. C'est si on va chercher sa cible ou si on va récupérer l'animal et qu'il y a un hacker, on pourrait imaginer qu'on tire. Ouais. Mais si tu respectes les conditions de, enfin les consignes de sécurité de la chasse, il n'y a pas trop de problèmes. Et en France, c'est interdit ce type d'équipement. Donc, si on reste en France, on est safe.
Ouais. Moi, j'étais pas à Black Hat, mais j'ai lu le papier qu'on m'a dit qui était intéressant. Il y a quand même deux conférences que j'ai trouvées vachement bien. Il y en a une sur WSUS, où, le truc que toutes les entreprises utilisent, hein, pour distribuer les mises à jour Microsoft. Et en fait, personne n'a jamais regardé ce truc-là, quoi. Et en fait, le gars a trouvé que, en fait, ils n'utilisent pas de SSL par défaut, parce qu'en fait, toutes les mises à jour sont signées par Microsoft. Donc, tu peux pas pousser un exé arbitraire sur la machine de quelqu'un. Mais par contre, la blague, c'est que dans la description des mises à jour, tu peux passer des arguments de ligne de commande dans un fichier XML. Et ceux-là, par contre, évidemment, ils sont pas signés, ils sont transmis en HTTP. Donc, si tu es en position de man in the middle, tu peux modifier ces arguments. Et donc, ce qu'ils ont fait, ils ont pris BG Info, le truc de SysInternals, qui permet de changer le fond d'écran sur ton Windows. Et en fait, ce truc-là, il prend en paramètre un script VBS arbitraire qui permet de modifier l'affichage. Et donc, du coup, quand tu es en position de man in the middle sur un réseau d'entreprise, tu dis qu'il y a une nouvelle update qui s'appelle BG Info, et ensuite tu passes les scripts VBS que tu veux en argument, et ça s'exécute automatiquement sur le poste de l'utilisateur.
Ah, c'est génial, ça.
C'est assez génial quand tu penses que Windows WSUS est en fait déployé dans les entreprises depuis 10 ans et que personne n'a jamais regardé, quoi.
Et par ailleurs, faire du man in the middle sous Windows, c'est vraiment ultra simple avec des outils comme Responder, où finalement on va spoofer des requêtes de découverte de réseau LLMNR. Ça marche à tous les coups pour intercepter des requêtes web ou des requêtes SMB. Super intéressant.
C'est certainement déjà utilisé par les services adéquats depuis aussi longtemps que WSUS existe.
Et j'ai cru voir sur Internet, effectivement, dans au sein de ces nombreux APT reports, qu'on voit passer à droite à gauche, que effectivement il y avait des mecs qui étaient compromis par la WSUS, mais bon, c'était pas, j'ai pas bien compris si ça avait un lien ou pas, quoi. Enfin, bon. Deuxième conf qui m'a bien plu, c'est celle du gars qui présente en fait une faille conceptuelle des processeurs Intel qui a été introduite en 1997 et qui explique en gros à partir du moment où tu as un processeur Intel tu peux passer de Ring 0, en gros, tu peux accéder au mode SMM depuis Ring 0. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, en 97, ils ont introduit la possibilité de remapper la table d'interruption, enfin la PIC, l'Advanced Programmable Interrupt Controller. Et en fait, ils ne vérifiaient pas s'il y avait un overlap avec la zone SMM existante. Et à partir de là, bon, le papier est absolument génial parce qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et les seuls trucs qu'ils peuvent faire, c'est flipper 4 bits dans une zone de données de la SMM.
Est-ce que tu peux essayer de vulgariser tout ça ?
Ok. Alors, donc sur l'architecture, il y a plusieurs niveaux de privilèges. Ring 3, c'est le moins privilégié. Ring 2, Ring 1, c'est jamais utilisé, sauf dans certains cas très précis. Et Ring 0 est en général utilisé pour faire tourner le noyau du système d'exploitation. Et après, il y a ce que les gens ont appelé le ring moins 1, qui est l'hyperviseur, quand il y en a un. Mais en fait, depuis toujours, il existe un truc qui s'appelle le SMM, System Management Mode, et qui que les gens appellent le ring moins 2, mais sur lequel il y a déjà eu plein de travaux. Hein. John Hartkowska, Loïc Duflo, etc. Fait des travaux déjà il y a plusieurs années là-dessus. Et en fait, le SMM, c'est un mode magique, parce que c'est un truc qui est censé exécuter les tâches les plus bas niveau de l'ordinateur. Par exemple, si tu appuies sur un bouton je sais pas, il y a des trucs d'interruption, enfin d'énergie et tout ça, c'est géré directement par la SMM. Et en fait, c'est du code qui est positionné en mémoire par le BIOS et sur lequel le système d'exploitation n'a aucune visibilité. Parce qu'en fait, au niveau des registres qui contrôlent l'accès à la mémoire, ils s'arrangent pour que, en tant que système d'exploitation, tu puisses pas voir ce truc-là. Et tu peux entrer en fait dans le mode SMM que via des pins physiques du processeur, donc sur des événements physiques de type interruption, alerte d'énergie ou des trucs comme ça. Quoi. Et donc, tout ce qui tourne en mode SMM est totalement invisible des antivirus et des outils de contrôle d'intégrité. Et par contre, le mode SMM, enfin tout ce qui tourne en mode SMM, lui, a une vision totale sur la mémoire physique du système. Donc, il peut accéder, par exemple, à la mémoire d'hyperviseur s'il est là. C'est pour ça que les gens appellent ça le ring-2, parce que c'est contrôle total, quoi. Et en fait, via cette faille, on va dire, de conception du contrôleur d'interruption sur les processeurs Intel, tu peux accéder au mode SMM depuis ton système d'exploitation. Et en fait, une fois que tu es rentré en mode SMM, du coup, il n'y a aucun outil de sécurité qui ne peut plus t'intercepter. Quoi.
Mm-hmm. Oui, mais tu disais que tu avais accès que sur 4 bits, j'ai pas compris.
Ouais, alors en fait, ce qui est assez beau dans cette faille, c'est que, un, c'est présent depuis très longtemps et c'est impatchable. Et deux, en fait, les conditions d'exploitation sont complètement démentes. C'est-à-dire que le gars n'a pas la copie du code qui s'exécute. Le BIOS, il est différent sur tous les PC de la planète. Donc, en fait, sa recherche, elle est limitée au code de référence fourni par Intel, parce que c'est la seule chose dont il est à peu près sûr que ce sera présent sur tous les PC de la Terre. Et la seule chose qu'il peut faire, en fait, c'est, en déclenchant des événements sur sa carte mère, il va pouvoir faire en sorte que le contrôleur d'interruption aille mettre un bit à zéro dans une zone mémoire qu'il a remappée sur la SMM. Mais il ne sait pas ce qu'il y a dans cette zone, et la seule chose qu'il peut faire dedans, c'est mettre un bit à zéro. Et en fait, en utilisant uniquement cette primitive, il arrive à prendre le contrôle du mode SMM. Donc, il y a 160 slides, hein, c'est impossible à résumer, mais la technique d'exploitation est assez magique. Tu sens que les gars, surtout qu'ils n'ont pas l'air d'avoir utilisé de son JTAG ou de trucs comme ça, donc ils étaient vraiment en aveugle complet, donc je pense qu'ils ont vraiment dû s'arracher les cheveux, quoi.
Qu'est-ce qui a fait ça? C'est des fous qui ont fait ça.
Ouais, ouais, c'est des gens totalement inconnus qui travaillent dans une organisation américaine, Battle Memorial Institute. Donc c'est une sorte d'association des anciens combattants, enfin bon, truc totalement improbable, quoi.
Attends, Battle Memorial Institute, c'est pas l'organisation américaine qui s'occupe de gérer les monuments aux morts et les monuments américains hors des États-Unis,
toi? Alors attends, je vais regarder.
Enfin bon, on en reparlera, j'ai déjà croisé moi ces gens-là.
Ouais. Et ce qui est absolument, enfin pour conclure sur cette présentation, en fait ça a été patché en 2010. Il y a une révision de processeur Intel, alors je ne sais plus laquelle, Sandy Bridge ou un truc comme ça, où en fait le remapping de la PIC échoue de manière silencieuse si tu essayes de le faire sur le SMM. Et donc ça veut dire, soit Intel a patché par hasard, soit ils ont détecté le problème, soit on leur a remonté le problème et ils ont corrigé sans rien dire, quoi. Mais je donnerais cher pour savoir ce qui s'est passé en 2010 au moment où ils ont découvert le problème et décidé de le corriger.
Oh ben, certainement que des gens en dehors des États-Unis l'ont découvert et utilisé.
Je ne sais pas.
En tout cas, c'est intéressant. Il y avait quelque chose d'intéressant aussi sur les processeurs Intel à la DEF CON, conférence que j'ai vue, qui profitait de la technologie d'hyper-threading qui est présente sur les processeurs récents et sur le fait que il y a des différents niveaux de cache qui sont partagés et qui permettaient de récupérer des données entre deux VM qui seraient exécutées sur le même processeur. Donc ça, c'est assez intéressant aussi parce que c'est pas du tout une vulnérabilité logicielle, c'est simplement dû à du matériel et à la configuration du BIOS. Et là, on peut du coup exfiltrer des données et échanger des données entre deux VM uniquement en stockant des choses dans le cache et en faisant des analyses sur la vitesse qu'on mettait à le récupérer. Donc ça, c'était assez rigolo également. Et en termes de contre-mesure, il n'y a pas grand-chose à faire à part ne pas mettre des machines virtuelles de niveau de sécurité différent sur une même architecture matérielle.
Ouais. Sinon, à Black Hat, il y a aussi le gars qui avait fait le chinois qui a fait sa présentation sur l'extraction de clés dans les cartes SIM 3G et 4G. Visiblement, la quasi-totalité des cartes SIM du marché sont vulnérables à des attaques en DPA assez triviales. Par contre, il n'a pas donné les noms des vendeurs. Mais bon. En gros, la carte SIM, elle coûte pas cher, mais par contre, elle a aucune contre-mesure.
C'est un peu dommage, c'est quand même l'unique fonction de la carte à puce de garder ce qui est dessus.
La sécurité est un échec.
Et quid de la vulnérabilité Android dont on a beaucoup parlé justement avant, avant la Black Hat?
Donc la conférence a eu lieu d'abord à la Black Hat et ensuite à la DEFCON. Je ne sais pas si c'était exactement la même. Pour être franc, je ne l'ai pas suivi. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de monde. C'est quelque chose de très attendu. Ce que j'ai vu en revanche, c'est que le patch qui avait été proposé n'était pas un bon patch puisqu'il pouvait être contourné. J'ai vu ça hier ou aujourd'hui. Donc il y a un patch de patch qui a été publié, je crois.
Tu peux rappeler la problématique?
Oui, la problématique est cette identification de plusieurs vulnérabilités dans une des librairies qui était très utilisée sur Android, qui s'appelle, je crois, Stagefright, et qui est utilisée dans la gestion des contenus multimédia. Je crois que c'était un simple, si on peut dire, buffer overflow, qui permettait à un attaquant qui envoyait un MMS de prendre le contrôle du téléphone. Avec, là encore, en termes de cibles vulnérables, je crois que ça tournait autour du milliard de téléphones actuellement, puisque c'était tous les téléphones à partir d'Android 2.2, je crois.
Oui, bah en fait, Stagefright, c'est la librairie multimédia, donc en fait, il gère tous les formats images et vidéos qui arrivent sur le téléphone. J'ai vu aujourd'hui qu'on pouvait exploiter aussi à travers WhatsApp ou Snapchat, enfin n'importe quel truc qui utilise la librairie du système pour lire une image, quoi. Bon, après, il faut relativiser quand même l'impact dans le sens où, entre les techniques de défense type ASLR et autres, enfin hardening au niveau du compilateur ASLR, et la fragmentation énorme du marché, il y a quand même peu de chances que ce soit wormable, quoi. C'est-à-dire qu'un mec puisse arriver à faire un SMS qui va se propager lui-même à tous les contacts du téléphone, etc.
Bon, ça dépend, parce que si tu prends un modèle semblable qui est très vendu, type Samsung S5, tu seras sur le même modèle et c'est sans doute un des plus présents, quoi.
Oui, mais tant que t'es passé la SLR.
Oui.
Et dans tes contacts, il y en a combien qui ont le même modèle de Samsung S5?
Il y en a quelques-uns, statistiquement.
Non, mais le process media server n'a pas accès à tes contacts non plus. Hein. Donc, ça veut dire que derrière, tu as un kernel exploit pour passer route sur le téléphone, etc. Enfin, le payload, je ne sais pas s'il tient encore dans un MMS, quoi.
Ouais, enfin, ce qui est intéressant dans ce truc-là, c'est que ça a forcé les gens de Google à annoncer qu'ils allaient sortir régulièrement, un peu plus régulièrement, des mises à jour, quoi.
Ça, pas c'est que Google. Maintenant, Samsung,
oui,
Google et Samsung font du patch Tuesday maintenant. Enfin, font
des mises à jour mensuelles. C'est quand même intéressant, ce qui n'était pas le cas jusque-là.
Ah ouais, je crois que ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais.
C'est la bonne nouvelle pour Madame Michu.
Enfin, je suis pas sûr que Madame Michu elle reçoive son update, hein, sans vouloir être pessimiste.
Oui, non, mais Madame Michu, de toute façon, elle va acheter son téléphone dans une boutique avec un Android locké sur un 2 points, je sais pas combien. Qui sera jamais upgradable, ça va rester, mais.
Ouais, sur c'est le... ça. La dernière frontière, c'est celle des opérateurs. Quoi.
Ouais, c'est ça, mais le principe est intéressant, c'est-à-dire que ça. On est obligé d'en arriver à ça, peut-être pour forcer un peu certains éditeurs à sortir des patchs Tuesday. En parlant de ça, le truc intéressant aussi, qui n'est pas forcément lié à la Black Hat, c'est ce que nous a écrit Oracle sur son blog et qui est retiré tout de suite.
Ouais, mais alors là, c'est. Intéressant, meilleur sujet. Bon, sinon, il n'y avait pas que des confs à Black Hat. Il y avait quelques soirées aussi.
Mais il était à DEFCON, Arnaud.
Ouais, je sais pas, mais les grosses soirées sont à Black Hat, effectivement. Elles sont pas à la DEFCON.
Il n'y avait pas un mur SCADA ou un truc comme ça à la DEFCON aussi
Si, il y avait un village. Il y avait un village assez industriel à la DEFCON. Du coup, j'y ai passé pas mal de temps, notamment parce qu'on va faire la même chose à la Brucon en octobre. Ouais. C'est super intéressant, hein. Il y avait vraiment pas mal de matos. Il y avait notamment tout un modèle de station de traitement d'eau potable. Avec des équipements de chez Phoenix Contact, une marque que je connaissais pas. Donc c'est assez intéressant. Puis plein de gens pouvaient venir se brancher, tenter de la pirater. On pouvait jouer à Tetris sur des automates aussi. Donc c'était vraiment très sympa.
D'accord.
Et il n'y avait pas que ce village, hein, il y en avait vraiment énormément. Il y en avait notamment un sur Internet of Things, où on rentrait dans une salle, il y avait une vingtaine d'objets connectés, dont un frigo. Et sur les 2 ou 3 jours, ils ont trouvé 25 nouvelles vulnérabilités sur ces équipements. Il y avait une sorte de petit concours où tu t'inscrivais par équipe et tu avais des points à chaque fois. C'était assez rigolo. Et bon, c'est quand même intéressant puisqu'ils ont trouvé 25 vulnérabilités.
Bon, et les soirées DEFCON alors ?
Bah, moi j'ai un collègue qui était à la soirée John McAfee, messieurs. Il a une photo de lui, John McAfee. Quoi.
Oui, en plus c'était dans un club de striptease. Hein.
Attends, j'ai hâte de voir labelliser le podcast interdit au moins de 18 ans.
Bah, y a d'autres clubs à Las Vegas que des clubs de striptease ?
Sinon, tu as été à B-Sides Las Vegas, c'est bien comme conf ça ou...
Ouais, j'y suis allé parce que j'avais candidaté pour faire un workshop sur les aciers industriels, vu que je fais que ça, du coup qui a été accepté, et ouais, c'était rigolo. C'est très sympa, c'est entièrement gratuit, faut le savoir, et il y a quand même, je saurais pas dire exactement combien il y avait de monde, mais en tout cas, il y avait 4 tracks de conférences en parallèle, donc pas mal de contenu, et notamment des gens qui faisaient leur conférence DEFCON un peu avant l'heure. Notamment celle sur Empire, le nouveau framework de comment dirais-je d'exploitation et d'accès distant écrit en PowerShell. Ça a été présenté au B-Side, super intéressant. Et il y a aussi une conférence dont je pense qu'on peut parler, que j'ai vraiment adoré, parce que c'est assez recherché. C'est quelqu'un qui s'est dit comment je fais pour insérer et exfiltrer des données dans un système où j'ai pas de connexion réseau. Donc ça m'intéresse parce que c'est un sujet sur lequel j'avais déjà un peu réfléchi. Donc pour infiltrer des données, c'est facile, il utilise l'équivalent d'un rubber ducky ou d'un Arduino, c'est-à-dire quelque chose qui émule un clavier et qui va taper du contenu. Donc jusque là tout va bien. Et ensuite pour exfiltrer les données, bah, grâce au programme qu'il a infiltré, il va afficher à intervalles réguliers sur l'écran des QR codes. Et de son côté, il va mettre une caméra qui va décoder tout ça et le transformer en fichier. Donc c'est quand même super intéressant, parce que c'est-à-dire qu'avec une simple liaison bureau à distance ou Citrix, on va pouvoir non seulement consulter les fichiers, faire des screenshots, mais également copier le contenu brut du fichier et exfiltrer et voler toutes les données qu'on veut via un simple accès Citrix.
Ah, mais il y a eu des présentations antérieures à ça. Je me souviens même à l'OCIR d'avoir vu un truc là-dessus.
En tout cas, là, c'était très bien fait. Et il a même fait un système qui te permet d'avoir une connexion TCP full duplex avec un Arduino et une caméra, quoi. Donc, c'est pas un débit énorme, mais c'est quand même assez puissant. Ça permet de connecter des systèmes déconnectés. Enfin, voilà, c'était super intéressant.
Il y avait la conférence d'un mec qui avait fait la même chose avec la lumière d'un scanner.
Oui, à la Black Hat Europe l'an dernier, oui.
Ouais, ou la touche.
C'était Shamir d'ailleurs.
Le voyant du pavé Numlock. Il fait clignoter dans la nuit et puis tu peux extraire de l'information.
Ouais. Non, mais c'est quand même intéressant de se dire tous nos clients qui utilisent des systèmes type accès distance, disant mon prestataire, il peut simplement voir ce qui se passe. En tout cas, il ne va pas voler tous mes fichiers. Bah non, c'est faux.
Oui, non, mais attends, il y a quand même une grosse différence entre les AirGap. Et les gens qui font du RDP ou du Citrix, où là, tu as quand même une liaison...
Je suis parfaitement d'accord avec toi, mais c'est pas aussi clair dans la tête de tous les gens que je rencontre. Ouais. Et le fait d'avoir une démonstration, une vidéo d'un outil qui permet de montrer ça facilement, pour moi, ça peut changer la donne.
Ok.
Ça a été fait avec les ultrasons hein, aussi.
Ouais, l'exfiltration de données, oui, tu peux la faire par ultrason. Il y en a même qui le font par contact uniquement, juste en touchant la carcasse d'un ordinateur, ils extraient les clés privées. Ça, oui, il y a effectivement pas mal de techniques de side channel, de canal auxiliaire, je crois, en français.
Canaux cachés.
Donc oui, les B-Sides étaient aussi très intéressants. Pas mal de conf, une bonne ambiance. La bière était gratuite, c'est quand même assez incroyable. La conférence est gratuite et ensuite les bières sont gratuites à l'intérieur. Donc,
Non, mais ils ont piqué ça chez NoSuchCon, hein, le coup de la bière gratuite.
Mais elle n'était pas sponsorisée, c'était pas.
Quelqu'un qui paye la bière.
Mais il y a forcément quelqu'un qui paye. Hein.
Oui, mais c'était pas marqué sur son t-shirt.
Et qui paye ? Tu le sais ?
Non, je sais pas.
T'as accepté de la bière gratuite sans savoir ce qu'il y avait dedans ?
Il faut toujours comprendre le modèle économique, parce que là, il y a forcément un truc. Hein.
Non, il y a des sponsors, la conférence est sponsorisée, mais par contre, la bière, ça fait partie du package, c'était pas des hôtesses engagées par une boîte en particulier qui distribuait de la bière, donc je trouvais ça sympa.
Oui, ok, il y a des sponsors.
Il y a des sponsors, oui. Je suis pas allé à l'événement, je pourrais pas vous en dire plus.
Ah, du coup, t'as pas fait pour les soirées
T'as pas fait des soirées, t'as juste fait des conférences, mais qu'est-ce que t'as foutu?
J'ai fait une soirée, j'ai fait celle d'IO Active le samedi à la DEF CON, qui était une pool party, qui était assez sympa. Et ensuite j'ai rencontré des gens à qui j'avais enseigné des trucs sur le SCADA Obisize, qui m'ont emmené dans les soirées un peu plus privées qu'il y avait au 26e étage. Et là, c'était très rigolo, je me suis retrouvé dans une suite avec deux DJ dans une salle de bain et une baignoire jacuzzi pleine de boules en plastique. Donc voilà, c'était rigolo. Mais je pense pas que ce soit d'un intérêt énorme pour le podcast.
Et il n'y avait pas d'autres conférences techniques intéressantes?
Ah si, il y en avait plein des conférences techniques intéressantes. Notamment, une qui m'a bien plu, sur la sécurité Windows. Alors, c'est pas révolutionnaire, mais c'était vraiment plein de contenu sur les nouvelles techniques d'attaque et de défense sur les environnements Active Directory. C'était fait par Sean Metcalf, Pyrotech, sur Twitter. Donc, il y a quelqu'un qui s'y connaît vraiment pas mal. C'était un récapitulatif, en fait, de tout ce qui se fait en attaque Windows depuis un an et demi. Notamment le SPN scanning, c'est-à-dire que au lieu de faire un scan de port, maintenant on a des outils qui permettent de directement interroger le contrôleur de domaine pour qu'il nous donne la liste des machines et leur niveau fonctionnel. Donc c'est quand même super facile pour identifier les machines XP et les machines Windows Server 2000 simplement en faisant la demande au contrôleur de domaine. Les techniques type, mais là c'est un peu plus technique à expliquer, Kerber Host, qui consiste à demander un ticket de service pour ensuite essayer de manière hors ligne de casser le mot de passe NTLM des comptes de service.
Et ouais, ensuite. Bonne chance là. Il y arrive ou?
En fait, ça marche. Pourquoi? Parce qu'on peut cibler les comptes de service qui sont dans une certaine OU. Donc on va pas chercher les comptes machines, on va chercher les comptes qui ont été définis manuellement, qui sont par exemple dans l'OU user. Et ceux-là, ils sont jamais changés. Et c'est pas si fréquent que ça qu'ils soient solides. En tout cas, ça se voit souvent.
Non, mais tu parles pas des comptes avec des comptes de service avec le mot de passe géré par le système, quoi. Parce que maintenant, Windows te permet de faire ça, quoi, d'avoir des.
Ouais, non, là, je parle de
manage service account.
Exactement. Bah, quand c'est pas utilisé, c'est souvent défini à la main, ça a souvent 3-4 ans et c'est pas souvent terrible. Donc ça, c'était super intéressant. Et puis, une petite overview de tous les mécanismes de persistance, notamment, alors les plus connus, c'était Skeleton Key, les Golden Ticket, donc ça, c'est du classique, mais aussi l'ajout d'un Security Service Provider malveillant, donc qui va par exemple, dès que quelqu'un va se connecter, écrire le mot de passe en clair dans un fichier, parce que comme c'est un provider d'authentification, bah, il va avoir accès à cette information. Ou encore, quelque chose qui est sorti assez récemment, l'utilisation de l'historique des SID, qui est une fonctionnalité qui permet normalement de faciliter la migration d'un ancien domaine à un nouveau domaine, et qui va permettre cette fois-ci, pour un utilisateur, au lieu de le mettre dans un groupe admin de domaine, ce qui va pas être très discret, on va lui rajouter un identifiant de sécurité qui correspond à admin de domaine dans le paramètre SID history. Ce qui va faire qu'il va pouvoir avoir les privilèges d'un admin de domaine tout en restant dans le groupe utilisateur. Donc ça, c'est assez discret. Si on le sait pas, on va pas le chercher, sauf en cas d'inforensique avancé peut-être. Mais en tout cas, c'est assez rigolo. Donc c'était une présentation intéressante. Sur la partie défense, malheureusement, il y avait rien de nouveau. C'était que des mesures classiques que la plupart de nos clients qui sont un peu bons dans le domaine implémentent déjà. Donc là, malheureusement, j'ai pas grand chose de nouveau à proposer. Et il parlait évidemment de la technologie, enfin de la solution ATA de Microsoft, qui est le rachat d'une société qui permet de faire de la détection d'attaques pass the hash, pass the ticket, etc. Il y avait une version de démo qui était disponible. Enfin, moi, je l'ai testé, ça marche pas. Mais bon, peut-être que la version finale fonctionnera.
Ouais, mais parce que c'était basé sur du machine learning aussi, donc il fallait quand même que tu aies une activité réseau un peu représentative, etc.
En fait, oui et non, il y avait deux modes de fonctionnement. Effectivement, le mode apprentissage sur ma maquette, ça n'a pas marché parce que c'était pas une maquette réaliste d'un domaine. En revanche, ils disent quand même très clairement qu'ils détectent l'utilisation la création d'un pass de hash, d'un pass de ticket, et ça on l'a fait, ça marche pas. Et même un brute force, ça ne marche pas.
C'est parce que tu es sur un Windows français, non? Il doit faire du pattern matching sur administrator.
C'est pas impossible en fait.
Ouais, clairement.
Le coût du SID administrateur dans l'historique pour bénéficier des privilèges, c'est pas du tout quelque chose qui était vérifié ou qui est vérifié par les logiciels justement de contrôle des privilèges?
Si. En fait, pour, si tu vas sur tbiro.com, tu regardes, et le mec, il avait un outil en 2002 qui permettait de, d'éditer le SID History dans Active Directory, déjà. Okay. Mais, c'est juste qu'à l'époque, les confs étaient... Enfin, disons, il y avait moins de buzz, quoi. Les logos... Enfin, les files, il n'y avait pas de logo. Et du coup, en 2003, en Windows 2003, ils ont activé le SID Filtering. Après, évidemment, c'est pas parfait, puis il y a des cas où tu as besoin quand même d'autoriser... En fait, je crois que le SID filtering, je sais plus, il y a une blague, genre il n'est pas activé par défaut, ou quand c'est les domaines à l'intérieur du même forêt, tu peux pas filtrer le SID d'un autre domaine ou un truc comme ça, tu vois.
Tout à fait. Et là, ça permet également, si on crée un golden ticket pour un sous-domaine, que ce golden ticket soit valable, s'il y a les bonnes relations d'approbation, sur l'ensemble de la forêt. Donc c'est intéressant aussi. C'est pas, je suis d'accord, c'est pas une nouvelle vulnérabilité, c'est simplement une nouvelle fonctionnalité facile à utiliser dans les outils existants. Ouais.
Non, mais je crois que là, ce qui a changé, c'est que, enfin, tu vois, même le pass de hash, finalement, ça existe depuis 97, quoi, depuis LoftDB Industries.
Oui.
Mais finalement, ce qui a changé, c'est l'automatisation et l'impact. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens font des vrais outils qui marchent et pas des hacks sordides de Samba. Et parce que derrière, il y a un vrai business case autour de la cybersécurité, du pentest, etc. D'avoir que quand tu faisais un pentest en 97, tu payais tes consultants en liquide, quoi. C'était. Non, mais.
C'est pas vrai, c'est pas vrai.
La DST avait la liste de tous les gens qui faisaient un peu d'informatique en France et ils passaient régulièrement voir ce qui se passait. Enfin, je veux dire, c'était une autre époque, quoi.
Parce que tu crois qu'aujourd'hui, ils n'ont pas la liste. Non.
Enfin, moi, je fais du pentest, j'ai jamais eu de liquide, hein, ça, je peux l'assurer.
T'es trop jeune.
Ouais, t'as dit que t'avais eu des bières.
C'est vrai.
Là, c'est vrai, ça t'a ramené quoi comme goodies?
Alors, aucune pour le moment, puisque mes bagages ne sont pas arrivés en même temps que moi, donc je suis très inquiet, notamment pour ma maquette SCADA, avec pas mal d'argent quand même en matériel, mais ils sont pas perdus, c'est juste qu'ils sont retardés. Qu'est-ce que j'ai pas mal de t-shirts, j'ai le super badge de la DEFCON qui est un vinyle, donc que tu peux écouter sur ta platine, j'ai un ballon de plage Tenable, j'ai des housses à bière, alors ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas, c'est une espèce d'étui en néoprène, parce que comme aux États-Unis ils mettent la bière dans de la glace, quand ils te la donnent elle est très froide, c'est pas agréable, et du coup tu la glisses dans ce petit étui en néoprène, ce qui permet de tenir ta bière bien au frais sans te geler les mains.
Sinon, est-ce qu'il y a quelque chose où une conf ou enfin quelque chose qui t'a vraiment surpris?
Qui m'a vraiment surpris? Ah, il y avait plein de choses rigolotes. Il y avait quelqu'un qui a réussi à acheter un bracelet pour les personnes qui sont en, comment on appelle ça, en liberté surveillée, qui ont un bracelet électronique. Donc il a réussi à faire du social engineering sur une compagnie taïwanaise pour acheter un modèle de ce bracelet électronique et qui a évalué le niveau de sécurité. Autant dire qu'évidemment au bout de quelques temps il a réussi à en prendre le contrôle et montrer comment il pouvait spoofer les adresses GPS assez facilement et donc faire croire qu'on était à un endroit alors qu'on n'était pas à cet endroit-là. Avec des cas d'usage qu'il voyait qui étaient plutôt assez méchants, c'était pas vraiment pour pouvoir s'échapper de chez soi, mais c'était plutôt pour un détenu choisi, faire croire à son officier de probation qu'il était ailleurs, et donc le faire retourner en prison. Donc c'était assez rigolo, assez méchant. Et le niveau de sécurité était quand même assez bas, hein, puisque c'était une liaison GPRS avec un bête socket TCP qui est même pas chiffré. Donc il y avait vraiment... là encore, c'était pas techniquement très intéressant, mais c'était très rigolo.
Une manière... De manière globale, les présentations, tu trouves que ça... Enfin, je sais pas si tu en as fait d'autres avant, les années précédentes, mais est-ce que tu trouves que ça s'améliore en termes de technicité, ou ça baisse, ou les failles...
Alors, j'ai pas fait des conférences équivalentes aussi grosses que DEFCON. Globalement, le niveau était quand même très bon. Plus tu vas à des conférences, plus tu te dis oui, ça je l'ai déjà vu, ou c'est un peu la même chose que la dernière fois, mais là il y en avait tellement qu'il y en avait forcément qui étaient un peu moins bien que d'autres. Ou un peu décevantes. Le coup du fusil, moi ça m'a déçu, parce que c'est un truc qui était survendu dans la presse, et après quand on voit que c'est un Wi-Fi qui est open et une API non authentifiée, bon bah c'est pas... ça paraît un peu moins miraculeux, quoi.
Et dans la série des confs marrantes, il y avait celle de Chris Rock sur comment tuer n'importe qui.
Ouais, ça c'était. Je l'ai pas vu, mais j'ai regardé les slides et c'était vraiment excellent. Effectivement, c'est quelqu'un qui fait une conférence qui explique les processus en quelque sorte pour déclarer quelqu'un comme étant mort. Et donc, il explique comment on peut facilement se déclarer comme directeur de funérarium et ensuite envoyer des demandes à l'État pour dire voilà, cette personne, je l'ai tuée.
Elle est décédée.
Je l'ai tuée, effectivement, mais elle est décédée et j'ai procédé à la crémation de son corps, etc., avec comme objectif de disparaître, de toucher des assurances décès, ce type de choses.
Non, mais c'est surtout que, en fait, t'as aucun moyen de revenir en arrière. C'est-à-dire, si un mec te fait ça et que t'es effectivement déclaré décédé dans une base officielle du gouvernement, tu ne peux plus revenir dans le système. Tu peux pas dire, non, c'est une erreur. Et en fait, il n'y a aucune procédure de rollback. Donc, du coup, t'as plus de carte d'identité, t'as plus de passeport, t'as plus de carte vitale, etc. Quoi. Ouais. C'est...
Alors, est-ce que tu vas y retourner l'année prochaine ?
Oui, quoi qu'il advienne, je vais y retourner. Avec un peu de chance, ce sera de manière officielle avec mon entreprise parce que je présente quelque chose. Si ça marche pas, j'irai individuellement. Mais en tout cas, c'est vraiment génial. C'est tellement cool que je suis prêt à y aller en perso et à payer le billet d'avion parce que c'est pas comme il n'y a pas d'équivalent, je pense, à ma connaissance ailleurs. Il y a des conférences très sympas en France, en Europe, mais là, c'est tellement une ambiance de folie, 20 000 personnes. Ça vaut vraiment le coup. En revanche, l'erreur que j'ai faite cette année, c'est d'aller aux conférences. L'année prochaine, si j'y retourne, je ne vais à aucune conférence et je vais que dans les villages, dans les workshops et dans les ateliers. Parce que c'est vraiment ça qui fait la différence, en fait.
En fait, tu dis ça parce que tu as apprécié le jacuzzi au 23e étage.
Avec les boules en plastique.
C'était, voilà. C'était assez marrant.
L'histoire ne dit pas quoi servaient les boules, mais bon.
Et où elles étaient placées.
Et j'ai entendu dire que les confs étaient broadcastés en fait sur les télés dans les chambres directement.
Tout à fait. Si t'es dans un des deux hôtels, le Paris ou le Baylis, ils sont connectés au système de télé et tu peux les regarder en mangeant une pizza depuis ton lit.
Ouais, ce qui est plus sympa que de faire la queue pour s'entasser au fond de la salle debout pendant une heure. Quoi.
Ouais, sur les grosses confs de type celle de Miller et Valasek sur la sécurité des voitures, c'était une salle vraiment énorme. Je pense qu'il y avait facile 2-3 000 personnes assises et pourtant il y avait plein de monde debout. Enfin, c'est vraiment difficile d'assister à ces confs parce que t'as pas le... Il n'y a pas assez de temps après la conf précédente pour rejoindre la salle, faire la queue et rentrer. Donc, si tu veux voir une conf de rockstar, comme on pourrait dire, il faut y aller une demi-heure en avance. Ouais.
Et l'anglais, c'est pas trop un problème pour les Français qui voyagent là-bas, parce que les Français, ils sont quand même nuls en langue.
Ben, j'ai vu deux Français qui présentaient une conf, on n'en a pas parlé d'ailleurs, sur la sécurisation du clavier contre les keyloggers, et qui sont deux étudiants de l'ESIEA, qui parlaient très très bien anglais. J'étais vraiment impressionné, ouais, avec une solution qui était pas mal, avec des slides super esthétiques. Franchement, j'étais très fier d'être français à ce moment-là.
Ouais, tu es des jeunes qui regardent Game of Thrones en VO.
Ouais, ça doit être ça.
Et aussi, il y a un autre français, il y avait Jonathan Brossard qui présentait. Bon, pas lui, il habite à San Francisco maintenant, mais.
J'ai pas vu sa conf. C'était à quel sujet ?
Bon, c'est sur les attaques par réflexion dans SMB. Donc en fait, en gros, tu fais une page web, et puis en fait, dedans, tu mets image source égale // le nom d'un serveur, et en fait, tu récupères un
HTLM.
Ouais, enfin, un challenge response HTLM. Ouais. Ou alors, dans certains cas, tu peux forwarder et te reconnecter sur une machine, etc. Quoi.
D'accord.
Ah, il n'avait pas appelé cette attaque le French Kiss, là, non ?
Si, si. Une French Kiss, et il y en a une autre qui s'appelle le ménage à trois.
Ok, en conclusion.
En conclusion, c'est pas évident, il faut y aller. Je pense que c'est ça la vraie conclusion.
C'est pas dur d'avoir des places, hein.
Non, c'est pas dur d'avoir. Enfin, si, à la DEFCON, c'est dur d'avoir des places, faut faire la queue. Faut faire la queue quand même 2-3 heures en général pour avoir des places.
Tu peux pas les acheter à l'avance.
Non. Enfin, j'ai pas le droit de le dire, mais quand t'es speaker au B-Sides, il y a un arrangement qui fait que tu peux les acheter en avance pour pas faire la queue. Mais c'est pas tout à fait officiel. Et sinon, t'es obligé de les acheter et c'est en cash. Donc ils ont 18 000 personnes qui donnent $230 en cash, c'est assez rigolo, je sais pas comment ils gèrent tout cet argent, et du coup pas de reçu, pas de note de frais.
Ah ouais,
c'est en train de dire que tu vas pas te faire rembourser, c'est ça ?
Effectivement, oui.
C'est pas un avantage en nature.
Je sais pas, j'espère que je vais pas me faire redresser en plus.
Ah bah là, t'es foutu, là. Il y a des preuves audio.
Ouais, en plus, ouais. T'es passé au 23e étage avec des boules, un jacuzzi.
Bon, et eh bien, on espère que cet épisode vous aura intéressé et on vous dit à très, très bientôt pour un nouveau podcast. Salut.
À bientôt.
Au revoir. Au revoir.